Studio Tamani, voici les informations en français.
Bonjour à toutes et à tous. Merci pour votre fidélité à Studio Tamani. À la une de ce journal, le festival Agna débute dans quelques heures à Kulukoro. Sur place, on constate un manque de ferveur. Au même moment, le FIWA Festival International du Wassoulou se prépare. Une rencontre pour valider les termes de référence du dialogue intermalien se tient depuis hier à Bamako. Des délégués venus de tout le pays participent à cet atelier de 4 jours. Dans la chronique Zoom sur, on parlera des personnes super propres qui ne supportent pas le désordre et très souvent l'entourage a du mal à les comprendre. Je suis Arkia Touré à la présentation, Gaïkantia sur la mise en onde. Bonjour et bienvenue. Les activités de la 5e édition du Festival Agna s'ouvrent ce mardi à Kulukoro. L'événement est placé cette année sous le signe de la paix et de la réconciliation. Si pour certains habitants de la 10e région, ce festival est une aubaine, d'autres déplorent le manque de communication autour de sa tenue. Juliette Kloubali est notre envoyée spéciale à Kulukoro.
Plus de 45 000 festivaliers sont attendus cette semaine à Kulukoro selon la commission d'organisation. Si certains habitants de la ville estiment que c'est une grande opportunité de développement pour la ville de Kulukoro, d'autres dénoncent la non-implication des populations locales.
Bon, je ne suis pas personnellement informé de cela, mais la population n'est pas tout à fait impliquée.
Ce festival permet de rassembler les jeunes.
Ça nous facilite à rencontrer nos artistes.
Le festival Agna va aider les hôtels à faire le plein.
Non, je n'ai pas d'informations sur ça.
Pourtant, pour les organisateurs, cet événement joue un rôle important dans la restauration de la paix et la réconciliation au Mali. Toutefois, ils précisent que le départ des investisseurs du Mali a eu un impact négatif sur l'organisation du festival. Boubacar Massa, référent du festival Agna à Kulukoro.
La 5e édition a été organisée dans des conditions très difficiles pour nous, compte tenu de l'état de la nation, le départ de tous les partenaires qui accompagnent habituellement le festival. Les innovations cette année, c'est le forum sur la paix et la cohésion nationale pour apporter une réponse aux préoccupations de l'heure.
Pour cette année, les organisateurs promettent des innovations lors de ce rendez-vous culturel, dont un colloque sur la paix et la réconciliation. À noter que ce festival Agna est le jumelage du festival Essakane de Tombouctou et celui du Ciné-Ado de Kulukoro.
Alors vivez tout au long de cette semaine les temps forts du festival Agna grâce à nos envoyés spéciaux à Kulukoro. Un autre festival qui se prépare, c'est la 7e édition du Festival international du Wassoulou FIWA. Elle est attendue du 29 au 2 mars 2024. Les initiateurs estiment que le FIWA est un rendez-vous qui expose le savoir-faire artistique et culturel du Wassoulou dans sa diversité. Cette édition est placée sous le thème « Debout, rien ne peut arriver ». Les jeunes d'aujourd'hui. La diva de la musique malienne, Oumou Sankari, est l'initiatrice et l'organisatrice du festival FIWA. Elle réagit au micro de Lalaïcha Walet Infa.
Ce matin, on était là pour parler encore de FIWA, de la 7e édition. Très important, annuel à Wassoulou. Beaucoup de surprises, comme d'habitude. Vous savez, on n'a même pas commencé la tiers de la richesse culturelle du Wassoulou. Pourtant, on est en train de l'exploiter depuis maintenant des siècles. À chaque édition, nos vieilles nous sortent des instruments que nous-mêmes, on n'a jamais vus. Vous allez voir beaucoup de surprises, parce que tout Wassoulou est décidé. Ceux qui ont eu la chance de voir le festival, la première édition, dès l'entrée, tu sauras le fait du festival. Ça entraîne d'exciter les gens de venir injecter dans leur village, d'encourager les bailleurs de fonds de venir créer des hôtels. Vous allez voir, moi-même, je suis vraiment contente du résultat. Voilà pourquoi je continue.
Alors, le festival FIWA, c'est à Yanfolila du 29 au 2 mars. Réagissez à toutes ces informations sur les réseaux sociaux à travers notre page Facebook ou notre compte X. Les termes de référence du dialogue intermalien en cours de validation, les délégués de toutes les régions et de la diaspora malienne sont réunis depuis hier au Centre international de conférences de Bamako à l'occasion de l'atelier de validation des termes de référence. Objectif, examiner et analyser l'avant-projet de ces documents proposés par le comité de pilotage. Le point avec Ziadata Meiga.
Pour le président du comité de pilotage du dialogue intermalien, cet atelier permettra aux participants de jeter les jalons du dialogue. Selon lui, toutes les thématiques liées à la paix, la réconciliation nationale, l'économie et le développement durable, les questions politiques et institutionnelles, la sécurité et la défense du territoire feront objet de débat. Ousmane Issoufi Maïga, président du comité de pilotage du dialogue intermalien.
Il s'agit d'explorer profondément tous les contours de la crise au Mali, de poser des questions pertinentes qui amèneront les populations à apporter les réponses et les solutions justes pour éradiquer les maux qui minent notre société.
Pour sa part, le Premier ministre Siogel Kokola Maïga a rappelé l'espoir que porte le gouvernement et tout le peuple malien sur le résultat de ce dialogue.
Le dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation nationale est attendu pour être une option pour accompagner le développement harmonieux de notre pays. Je profite de l'occasion pour tendre la main du gouvernement malien à tous les Maliens, de nous retrouver pour reconstruire notre pays.
Les gouverneurs de toutes les régions ont pris part à cette rencontre de 3 jours.
Le trafic a repris la semaine dernière sur les axes routiers Badjangara-Bankas, Gao-Kidal, au centre et au nord du pays. Selon des sources locales, cette reprise de la circulation des personnes et des biens commence déjà à avoir un impact sur les marchés de ces différentes localités, rapporte des habitants. Mais malgré ce constat positif, des difficultés perdurent. Compte rendu signé Issa Oumar Togola.
Au centre du pays, le trafic a repris sur la route nationale 15 la semaine dernière. Selon des sources locales, les poids lourds et les camions chargés de marchandises circulent librement de Badjangara à Koro en passant par Bankas. Elles indiquent également que la réouverture de ces tronçons favorise la reprise des activités économiques et le renforcement des liens entre les communautés.
Cette reprise nous a fait énormément plaisir. Maintenant, les activités ont repris et les marchandises arrivent normalement.
Nos produits viennent maintenant. L'huile, les cubes magie, le sucre et tout ce qui vient de Sikasso. Beaucoup de produits sont là, même s'il n'y a pas une baisse au niveau des prix.
À Kidal, au nord du pays, des transporteurs confirment également la reprise timide du trafic sur certains axes routiers menant à la ville de Kidal. Modibo Diané est membre des transporteurs routiers de la région.
En plus, les camions circulent librement. Mais il y a aussi l'escorte militaire avec laquelle d'autres camions s'emballent pour partir entre Kidal et Gao et entre Kidal et Algérie. L'axe Kidal-Menaka n'est pas encore ouvert. D'autres localités telles que Adelhok et Tessalit, ça, ce sont des zones où, à part les militaires, bon, vraiment la plupart des gens, personne ne fait ça.
Selon des habitants, les prix de certains produits alimentaires ont connu une baisse grâce à cette reprise du trafic routier. Toutefois, il faut souligner que le trafic reste bloqué sur tous les axes routiers menant à la ville de Menaka.
Voilà, il est 8h passées de 8 minutes. Vous écoutez Studio Tamani, cette nouvelle direction Badjangara. Un jeune travailleur saisonnier de moins de 20 ans a perdu la vie ce vendredi par noyade dans le fleuve Bako Issek de Bafoulabé. Le drame se produit quand le jeune homme avait emprunté une pirogue de pêche pour tenter de traverser le fleuve. Selon des témoins, son corps a été repêché et inhumé sur place le même jour. Et cette autre nouvelle à de Badjangara, Bankas plutôt, 5 mamans ont été primées lors d'une cérémonie d'évaluation nutritionnelle organisée le vendredi dernier par le projet Amasa Alpha Log et leurs partenaires. Cette activité vise à lutter contre la malnutrition chez les enfants de 6 à 23 ans. Les gagnantes ont reçu des prix entre 100 000 et 25 000 francs CFA.
Studio Tamani. Projet de la Fondation Hirondelle au Mali, financé par le gouvernement de la Suède, du Danemark, de la Suisse, du Royaume-Uni, par l'Union européenne et la coopération espagnole.
Notre chronique Zoom sur s'intéresse à des personnes vraiment uniques en leur genre. Nous en avons tous certainement un chez nous ou même dans le quartier. Il s'agit des personnes super propres qui ne tolèrent pas du tout une seule tache de saleté. Lale Tankara.
Eh oui, il s'agit de cet ami, frère, tonton, tanti ou même grand-parent qui ne digère pas du tout les saletés ou les désordres. Dès qu'il en voit, il se met à le ramasser. Certains même pensent qu'ils ne sont pas normaux. Il y en a qui, une fois arrivés à la maison, ils se mettent à vérifier partout, que ce soit dans la chambre, la cuisine même les toilettes pour voir si tout est à sa place ou s'il n'y a pas de poussière sur les objets. L'exemple typique est l'oncle de mon ami Mouna, qu'on a surnommé Tonton Propre. Dans sa famille, tous les jours, avant la descente, sa femme et ses enfants se mettent à nettoyer la maison et arrangent tous les objets afin qu'ils puissent avoir le sourire une fois rentrés. Souvent, des personnes qui cohabitent avec ces super propres ont du mal à les comprendre. Elles les taxent souvent des gens qui dépassent les limites ou aiment se faire voir, mais qui n'aime pas que les choses soient en ordre ou bien propres dans sa maison.
Absolument, Lali Tangara a retrouvé l'essentiel de nos productions en épilant gratuitement sur Viamo au 37 321 ou aller sur l'application Studio Taramani, téléchargeable sur Play Store. Tout à l'heure, la version Bambara de ce journal avec Idrissa Sako. Merci pour votre fidélité et bonne journée à tous. Qui dit la loi sur la prise en charge des victimes des coups et blessures volontaires au Mali? C'est le thème de notre magazine Gouvernance et Citoyenneté d'aujourd'hui. Les victimes d'agressions physiques ou d'accidents sont considérées comme des cas d'urgence dans les établissements hospitaliers. Pourtant, selon des témoins, les médecins du centre des centres de santé exigent généralement un document de la police avant de s'occuper de ce type de blessés. Qu'est-ce qui explique le refus de ces médecins? Ce numéro de magazine Gouvernance et Citoyenneté est présenté par Moussa Mali Sissougo avec le concours de nos correspondants.
Au Mali, les victimes d'agressions physiques et celles d'accidents de la route rencontrent des difficultés dans leur prise en charge. Leur accès aux premiers soins dans les hôpitaux est souvent protocolaire, disent-ils. Cet habitant de Ségou nous raconte sous couvert d'anonymat un fait dont il a été témoin.
J'ai été témoin d'un accident à Ségou. Suite à une bagarre, une personne s'est blessée et les médecins ont exigé à ce qu'elle ait une autorisation de la gendarmerie avant qu'elle ne soit prise en charge. Je pense qu'il faut d'abord soigner le malade avant de chercher la cause de la blessure. En cas d'incendie, on éteint d'abord le feu avant de chercher les causes. C'est pareil pour un malade qui se rend à l'hôpital. Il faut d'abord le soigner.
Mamadou Camara, un habitant à Maïna, nous livre aussi sa mésaventure avec les agents de santé de Bafoulabé sur un cas d'accident.
J'ai une fois amené un élève victime d'un accident à l'hôpital dans le cercle de Bafoulabé. On m'a exigé une réquisition alors que je ne faisais qu'aider la personne qui avait cogné un arbre. Ils m'ont clairement dit que sans réquisition, ils ne vont pas toucher au malade. Alors j'ai pris ma moto et je suis parti.
Que disent les textes en matière de prise en charge d'une victime d'agression ou d'accident? Docteur Modibo Doumbia, président de l'Ordre des médecins de Bamako, répond.
Normalement, le médecin est tenu d'informer l'officier de police judiciaire parce que ça permet de couvrir les médecins et de couvrir l'établissement. Parce que les victimes peuvent être agressées par un inconnu, peut-être qui est recherché même par les services de renseignement et autres. Donc, s'il est signalé, ça permettra d'orienter mieux ce service judiciaire.
Cependant, Dr Doumbia précise que cette disposition ne doit pas s'appliquer dans tous les cas. Car, dit-il, tout médecin se trouvant en présence d'un blessé en péril doit lui porter secours.
La prise en charge des patients n'attend pas souvent la réquisition. Quand le pronostic vital du patient est engagé, rien ne doit retarder. Le médecin peut prendre en charge le patient. Il faut sauver la vie d'abord. Mais la police de proximité de l'hôpital est informée.
Cette disposition n'est pas connue de tous, affirment ces habitants de Yorosso, Ségou et de Bamako.
Une blessée grave vient à l'hôpital. La prise en charge n'est pas du tout immédiate.
Arrivé à l'hôpital, il faut faire les premiers soins. On va voir ce qu'il y a lieu de faire.
On peut laisser souvent de côté la loi et regarder le bon sens des choses et essayer d'arrêter l'hémorragie.
Docteur Bourema Kelly, commissaire à la CNDH, Commission nationale des droits de l'homme, pointe du doigt un manque de communication.
Il y a un problème de communication entre les différentes parties, notamment entre les professionnels de la santé et les usagers, et aussi entre les usagers et la police, et entre la police et les professionnels de la santé. Mais celui qui est au centre, ça c'est l'intérêt du patient. Tout le monde devrait œuvrer à ce que les droits soient respectés. Mais cette réquisition de prise en charge ne doit en aucun cas retarder l'offre des soins. Il y a des insuffisances souvent dans notre système de santé qui font que souvent quand les patients arrivent, ils ne sont même pas accueillis. Souvent on dit que non, il n'y a pas de place. La loi hospitalière en est claire.
Pourtant, de l'article 7 à 12 de la loi hospitalière de 2002 explique largement la prise en charge des cas d'urgence. Selon l'universitaire Dr Mamadou Guissé, le médecin ne doit pas refuser l'assistance à un malade. La non-intervention du médecin est assimilable à la non-assistance d'une personne en danger.